Bienvenue à toutes et à tous dans notre premier podcast à caractère
divertissant.
Quoi, ouais, divertissant. C'est vrai que ça
ouais,
fonctionne
c'est
bien,
plus
divertissant.
Ça, on va pas se mettre dans des cases directement.
Non, on va pas commencer à philosopher
et on va avoir assez du temps de podcast pour ça.
Exactement. Donc bienvenue dans le premier épisode de Tard l'époque. Aujourd'hui, on veut vous parler de quelque chose qui nous touche, qui nous lie quelque part, parce que je pense qu'on peut...
Malheureusement.
On peut peut-être... Waouh. Ok. On peut peut-être dire qu'on est copines, genre. Mmh. Est-ce qu'on peut aller jusque-là?
Seaward.
On est copines. En vrai, Mitton, on s'entend hyper bien.
Ouais. Mmh. Mais oui, c'est vrai.
Let's go.
C'est vrai, on s'entend super bien, on est super copines.
Voilà. Et donc, le fait est que comme on est très copines toutes les deux, on parle de plein de choses. Tu m'arrêtes si je me trompe. Mais jusque-là, on a abordé
jusque-là,
plein
c'est
de sujets.
Ça.
Voilà. Et notamment, le premier sujet dont on a parlé, c'est l'amitié. Petit disclaimer, c'est important d'en faire. C'est le premier épisode, donc...
On n'est pas sûr encore du pourquoi, du comment, de ce qu'on va avancer.
Exactement.
On parle avec le cœur, on parle beaucoup.
Voilà. On peut glousser aussi, ça
parfois, il n'y a pas de
arrive.
Ligne directrice, donc on a fait un petit plan pour essayer de savoir où on va. C'est quand même important.
Ouais.
Donc on va essayer de s'y tenir. Même
c'est
si
vrai.
Rien n'est promis. Hein.
À tout moment, on va finalement parler des traumas.
Ça va partir en crise d'angoisse.
Ça peut arriver, mais c'est aussi ça l'entertainment,
ouais.
Comme on dit.
L'antenne libre.
En allemand. Et donc, du coup, pour parler amitié, comme l'a dit Pauline, on a préparé un petit plan. Et je pense qu'on peut commencer. Moi, j'ai une question pour toi, Pauline.
Une question comme ça, qui te vient d'un coup.
Bah ouais, là, j'y ai pensé. Ouais. Je me suis dit, putain, j'ai meurt d'envie de lui demander.
Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code GLOW.
Est-ce que toi, tu pourrais me donner ta définition de l'amitié?
Ah la vache.
Ouais.
C'est pas n'importe quoi comme question, l'amitié. Mmh. Je pense que honnêtement, j'ai dû trouver la réponse à cette question cette année, à 23 piges.
La vache.
Parce que avant, je pense qu'on est tous bourrés de fausses définitions de l'amitié, de fausses idées préconçues. Et pour moi, l'amitié maintenant, c'est des gens qui t'apporte un sentiment de confort,
ouais.
Et un sentiment, pas de « on t'aide à te dépasser tout le temps » ou « on t'aide à sortir de toutes tes zones de confort » et tout ça, t'as besoin principalement de toi.
Mmh. Non mais genre tu te sens bien quoi,
ouais,
c'est ta confort
zone. Une zone
zone.
De confort, mmh. Des gens que tu vois, que tu pourrais être dans tous tes états, voir n'importe quoi qui t'arrive, c'est des gens qui seront là peu importe ce qui t'arrive, c'est confortable avec eux.
Ouais.
T'as pas à te restreindre, t'as pas à te dire ça je peux pas le dire, ça je peux pas le faire, faut que je sois un peu comme ça. Non, juste confortable.
Et si je réagis comme ça, faut que je leur explique pourquoi, parce qu'ils cherchent pas
ça.
Non plus à te comprendre.
Et ça, cette partie-là de ma personnalité, ils aiment pas trop, donc faut que je fasse des efforts. Non, non. Les vrais amis, c'est des gens où tu peux être, mais n'importe comment, n'importe... Même si t'es chiante. Mmh. Dans ta journée, t'es chiante. T'as envie d'être de mauvaise humeur, t'as envie de casser les couilles à la terre entière. Mmh. Bah tes potes, ils vont être là en mode, vas-y.
C'est bon, la
vas-y,
coucou,
elle,
on sait, ça va passer. Ça va passer.
Non, ouais, voilà, c'est pour moi, c'est ça. Et pour toi?
Bah je te rejoins quand même vachement là-dessus, mais je trouve quand même que c'est assez fou que... parce que moi aussi, j'ai capté, t'as capté, très récemment, au final... vraiment ce que j'attendais des amitiés et ce que je considère comme comme ouais justement le grand mot amitié, qu'est-ce que je mets dedans, etc. C'est hyper récent, honnêtement, et je trouve ça quand même fou parce que quel âge tu as, ma petite Pauline?
23 ans et toi?
Bah 24, figure-toi. Donc c'est quand même fou de se dire, on s'en rend compte que maintenant de la vache, ce que j'ai pu avoir avant, ce que j'ai pu connaître dans mes groupes de potes, etc. Où je me disais, non, mais ça, c'est mes meilleurs potes, on passe des bêtes de soirée ensemble, machin. Bah en fait, non, c'est que de la surface. Et souvent, ça arrive assez tardivement de te dire. Ah putain, ok, c'est ça. Ok,
Ouais.
je me suis pas mal plantée, mais let's go. Donc ouais, non, moi j'ai une définition de l'amitié quand même qui se rapproche pas mal de la tienne. Et effectivement, j'ai envie d'être avec des gens où je sais que je vais pas avoir besoin de me justifier sur mon comportement, sur mes angoisses, sur qui je suis, sur ce que je pense, etc. Et juste, ils sont ok avec ma personne. Et ça fonctionne bien quand on va dans la même direction.
Ouais, c'est ça. Mais rien que le terme, je sais pas si tu vois, déjà vers le collège un petit peu et tout, tous ces, tu vois le classement déjà des meilleurs potes.
Ah la vache.
En mode, tu dois avoir des meilleurs potes. T'as des gens déjà qui sont censés te correspondre plus que d'autres. Mais pourquoi
mais
déjà
on
ça
se battait.
Ouais.
Je sais pas si toi ça te faisait ça aussi. Nous c'était vraiment, ah oh, putain, non mais ouais, machin, il m'a dit que j'étais sa meilleure
oui.
pote, machin.
On t'offre le collier là, en mode le cœur
best
friend forever.
Oh wow.
Et t'es là, t'es en mode, mais moi, attends, moi je me suis toujours dit,
je l'avais.
C'est... Moi aussi je l'ai eu.
Sixième. Ok, d'accord.
Et c'est un truc où tu te dis déjà cette course au meilleur pote. Ça veut tout et rien dire. C'est quoi un meilleur ami? Genre, qu'est-ce qui change ton meilleur ami des autres? Et à cette personne, tu lui mets pas, il n'y a pas une certaine charge, une pression sur votre relation au final, parce que ça veut tout et rien dire, meilleur pote.
Bah, c'est pour dire, ouais, avec une personne, tu as réussi à créer un truc exceptionnel. Ouais. Mais pour moi, c'est. Enfin, en tout cas, quand t'es petit, quand t'as ces termes-là qui ressortent, c'est quand même vachement pour montrer que non, mais regardez, moi j'ai quand même cette relation-là, tu devrais peut-être être jaloux de ça,
c'est
parce
ça.
Que toi tu l'as pas. T'as quand même un truc, enfin malsain forcément, comme quand t'es petite, tes amitiés sont rarement très saines. Mais ouais, non, complètement.
Bah,
complètement.
Ce truc de validation un peu en mode, tu vois, ceux qui avaient des meilleurs potes étaient validés. T'es en mode, ah ça y est, moi j'ai mon meilleur pote, j'ai des meilleurs potes, je fais partie du truc. Toi t'es là, t'as juste des copines, mais pas forcément ce truc de fusion, parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on pourra aborder, la fusion amicale. Gros dose de la fusion amicale qui paraît au début. Totalement safe, il faut absolument avoir ses meilleurs potes, les petits quinquins, les petits gnangnans, les petits cancans, tous ces petits trucs là. Et en fait, au final, plus on grandit, plus on se rend compte que en fait, tu veux pas un meilleur pote et cette exclusivité totale de c'est cette personne que je choisis, je remets toute ma santé mentale, mon bien-être et mon évolution sur cette personne qui. Parce que ça veut tout dire, ton meilleur pote, après, c'est quel genre de pression? On dit, bah, t'es ma meilleure pote, tu me dois ça, tu me dois ça, t'es pas là pour moi dans tel moment, et du coup, à un moment, tu dois
mais
laisser.
C'est épuisant en vrai. Enfin, tes amitiés petites, tes amitiés très fortes, que tu considères comme très fortes, ça demande un temps, un investissement qui n'arrive pas, genre après.
Ouais.
Qui n'existe pas, enfin forcément si tu t'investis dans tes potes, mais pas autant. Là, fallait être au courant de toute la vie de la personne, fallait être là non-stop pour elle, enfin, c'est épuisant.
Et puis, est-ce que tu peux vraiment dire que t'as des meilleurs potes ou des grosses amitiés tant que tu t'es pas trouvé toi-même? Est-ce que déjà on peut dire que t'as trouvé tes vrais amis, vraiment, à certains moments, quand t'es trop jeune et que tu t'es pas trouvé toi? Moi, je pense plus que quand t'es jeune, c'est horrible ce que je vais dire, mais c'est des partenaires de vie que tu croises.
Partenaires particuliers, genre.
Des partenaires de vie qui t'aident à vivre des expériences, à te découvrir, jusqu'à un certain moment où t'arrives à un stade où tu sais ce que tu veux.
Ouais.
Parce qu'en fait, tout le monde parle des relations de couple, il faut savoir ce qu'on veut, il faut poser ses limites, mais en amitié, ça passe à la trappe tout de suite, alors que c'est des relations parfois beaucoup plus fortes, avec beaucoup plus d'enjeux. Une rupture amicale peut faire beaucoup plus mal qu'une rupture amoureuse.
C'est vrai.
Et on remet tellement notre vulnérabilité sur le dos de nos amis que parfois on omet de mettre dans une relation de couple. Donc rien que ça, c'est quand même... C'est quand même un gros dos.
Mais c'est vrai que de toute façon, je sais pas toi comment tu vois toute ton évolution depuis que t'es enfant, mais moi j'ai l'impression d'être pas des versions différentes, mais peut-être des versions évoluées, tu vois, à chaque fois. Et du coup, genre, je suis petite, je me dis, je vais dans cette direction. Au final, je passe à la préadolescence, je vais dans une autre direction, adolescence, etc. Et donc, forcément, tes amitiés, elles sont chamboulées parce que tu construis quelque chose sur déjà une base qui n'est pas stable. Enfin, amitié jeune, j'entends, parce que je pense que maintenant, les relations que tu crées, arrivées dans la vingtaine, déjà, c'est différent parce que ta base, elle est un peu plus solide.
Ouais.
Mais avant, tu l'as pas, donc tu pars tellement dans tous les sens. Enfin, moi, je regarde les groupes de potes et tu vas me dire si ça te fait la même chose. Mais je regarde dans tous mes potes, là, mes énormes potes, les différents groupes que j'ai pu avoir. Il n'y en a aucun qui se ressemble. Genre vraiment de quand j'étais toute petite, où j'allais plus être avec des meufs qui, je sais pas, étaient un peu genre ah, j'allais faire une imitation horrible, oh j'aime lire, genre non mais très là t'es dans les bouquins, tu vois. Et genre une semaine sur deux, elle me disait déjà ah, t'es notre meilleure pote, en fait non, en fait oui, en fait non, enfin bref. Déjà un truc où, enfin je sais que moi personnellement c'est pas trop ma personnalité, j'aime rire, ouais. J'adore rire.
J'adore les blagues.
Comme dirait une personnalité très connue. J'adore les blagues. Déjà, il y a ce petit groupe-là. Après, je suis passée en primaire, j'avais un plus gros groupe de potes, mais avec qui je m'amusais pas forcément. Après, je traînais un peu avec des gens dits populaires, ou pareil, bah, j'étais pas hyper à l'aise. Enfin, il y a eu plein de moments de transition où, du coup, j'ai jamais eu l'impression, enfin, sauf aujourd'hui, d'être la même personne. Je sais pas si ça a du sens de dire ça
si,
comme ça,
bah mais... Si, totalement. Parce que de toute façon, en fonction déjà de là où tu grandis, rien que tu nais dans une ville à la campagne, dans une ville, ou dans une ville à la campagne, c'est totalement ça, clair et logique.
À la campagne.
Voilà. Okay. À la campagne, c'est déjà totalement différent. Les gens que tu vas côtoyer sont pas les mêmes. Les professeurs, les environnements, rien ne sera pareil. Oui. Les influences seront pas pareilles. Et t'as juste à ouvrir les premiers bouquins de sociaux pour te rendre compte que ça changera du tout au tout. Ouais. Et c'est là où c'est super difficile de trouver sa place, justement, quand t'es plus jeune, on va dire à partir du collège, où tu commences à avoir ta personnalité qui se développe et t'as des personnes autour de toi qui ont certaines influences et tu te rends compte, comme tu dis, mais moi, je ressemble pas à ça. Et c'est super dur de se trouver parmi des gens qui ont déjà parfois, genre tu sais, c'est le cliché, mais t'arrives au collège, au lycée, t'as le groupe, t'as comme tu dis, les intellos, t'as les gothiques.
Mais moi je connaissais pas ça, tu vois.
T'avais pas ça ?
Bah au début, parce que j'ai fait deux collèges différents, le premier collège où j'étais, il y avait pas ces histoires de populaire et tout machin, c'était qui tapait plus fort.
Ok, t'étais voilà. J'étais en prison.
J'étais un peu à la prison. mais mon premier collège c'était ça, et arrivé genre en quelle année ? Quatrième, troisième, je l'ai passé dans un autre collège, là un peu dans une ville un peu richou, tu vois, ça sentait un peu la tunasse. Et là, j'ai découvert tout le truc de, effectivement, les populaires, les noobs, comme on disait à l'époque, comme c'est on a une génération de...
C'est quoi les...
Je sais pas le mot noob.
Non.
Oh la vache.
Mais tu vas avoir 25 ans aussi.
Alors, pas tout de suite. vraiment, il y a encore une année qui doit passer.
Arrête.
C'est terrible.
J'ai 24 ans, tu vois.
Les noobs, c'était les nullos, tu vois, genre un peu les, j'allais dire encore un autre mot,
quoi.
Les nerds.
Oh la vache. So millennials.
tu les vois même physiquement, c'est horrible. C'était ça avec leurs petites lunettes, leur ils mettaient les capuches, c'était comme ça, et puis
sac à dos qui fait la taille du de l'humain.
Ouais. Voilà, c'est ça. Ils étaient automatiquement pas très grands. Mais du coup, ouais, il y a ce classement-là que j'ai découvert qu'en quatrième et qui était absolument horrible. Je suis descendue de 1000 étages, en vrai, quand j'ai appris que ça se passait comme ça. Tu faisais partie de qui, toi?
Moi, je faisais partie de rien du tout, je pense. Non, moi, je sais pas, je suis arrivée dans... Bah, moi, déjà, collège de campagne, donc t'es dans... J'adore quand tu croques dans ton donut,
Picon,
comme
quoi.
Ça.
Donuts,
partenariat. Placement de produit. Non, moi, je suis arrivée dans un collège de campagne. Forcément, tu passes de classe de 20 personnes avec plein de gens différents. Beaucoup d'influences pas ouf. Nous, on n'était pas dans un lycée du centre pété de thunes et tout. C'était l'inverse. C'était les bonnes petites bourgades du fin fond de Rennes.
Oh, wow,
donc,
wow.
Plein de styles différents. Là aussi, je suis passée par 5 styles, 5 directions, parce que t'as tout. T'as ce côté où faut... si tu travailles trop, t'es mal vu. Si tu travailles pas assez, t'es mal vu. Et t'as tes problèmes perso. Souvent, le collège, c'est là où tu commences à avoir ta personnalité qui se développe, tes petites crises de la préadolescence, l'adolescence qui s'installe doucement.
Très sympa, très sympa.
Donc, tu te rapproches de gens qui te ressemblent. Mais en même temps, est-ce que tu te rapproches pas de gens que t'aimerais être, parce que tu vois ces gens, en mode, ils ont l'air un peu inatteignables, ils ont l'air forts. Du coup, tu te dis, ah, moi aussi, je veux être pareil qu'eux, donc je vais faire ça.
C'est... Avec cette voix-là, exactement.
Ah, moi aussi.
Parce que t'as fumé quelques clopes.
À 13 ans. Devant les cars, là. Des ça, c'est gros.
Énorme garrot, là. Objectif, gros s'arracher le poumon. Vas-y. Pardon, grosse... j'ai coupé.
Grosse influence du collège, quoi. Genre... Ah non, c'était un collège très sympathique, horrible. Ouais. J'ai pas trop apprécié ces années-là. Franchement, c'est vraiment des périodes où tu te dis, c'est quoi les humains? C'est quoi les gens? Qu'est-ce que je fous là?
Moi, je savais pas, enfin, j'interagissais avec des gens, mais je comprenais pas les interactions que j'avais. Tu vois, je sais pas comment le retranscrire autrement.
Bah, tu sentais pas à ta place, t'étais tout le temps dans un état un peu mode avion survie activé. Oui,
second, en continu. Ouais,
parce que ça, c'est la période, le collège, où t'as beaucoup d'harcèlement.
Ouais.
Et où si tu fais un pas de travers, t'as tout le monde qui se retourne contre toi. Tu peux avoir des choses pas ouf. Moi, je l'ai eu un petit peu, ça, mais très, très, très léger, quoi. Genre des moments où d'un coup, tout va bien dans ta vie et bam, choc émotionnel, t'as des rumeurs, des machins, des trucs.
Mais en plus, ça sort de nulle part à chaque fois.
On n'avait même pas les réseaux sociaux, nous, dans le temps.
Mais dans le temps, il n'y avait pas tout ça.
Il y avait quoi? Il y avait MSN.
Tu commences le lundi, tu finis ta journée avec SVT, tout se passe bien. Tu reprends le mardi avec les mathématiques.
Et personne ne te parle. Personne ne te parle en maths.
Tu vas manger à la cantine, t'es toute seule.
Oui, cette phobie de la solitude de la cantine au collège.
Je pense que c'est le lieu qui m'angoisse le plus. Et que genre, même si dans 10 ans, je retourne dans un collège, un lycée ou autre, pour qui, pourquoi, je sais pas. Ouais. Mais peut-être la vie va m'emmener là-bas, on ne sait pas. Je pense que je tape une crise d'angoisse en allant dans une cantoche. Genre.
Ah non, mais horrible ce truc où si t'arrives tout seul avec ton plateau, tout le monde te regarde. Si tu ne trouves pas ta place où t'asseoir, tu es une merde. Non, mais c'est vrai que la cantine, c'est vraiment... Enfin, le self, la cantine, peu importe comment on appelle c'est ça. Horrible. Déjà, c'est le lieu de tous les débuts de TCA.
Mm-hmm.
Parce qu'on te regarde manger, on te regarde... tu reprends du rap, du machin, du bidule.
Oh,
tu sens... Ah, mais tu sens un peu ce regard, les gens. Tout ce que tout le monde dit les uns sur les autres, tu manges tout seul.
Ouais.
Horrible. C'est...
Tu sais que tout le monde te regarde.
C'est ça.
C'est ça, c'est que c'est même... Pardon, je meurs.
N'hésite
c'est
pas.
Même pas un truc que genre tu te mets tout seul dans la tête de putain, trop lent, je mange tout seul, machin. Non, c'est vraiment les autres enfants qui te font aussi te sentir trop mal.
Ah ouais,
pourquoi ça existe, ce système de cantoche?
C'est un enfer, c'est un enfer, et puis t'as personne pour réguler le truc, et tu sens les regards, tu sens quand t'arrives, t'as ce manque de confiance en toi, tu tiens ton plateau là, tu sens le défilé
la main
du plateau,
ouais, un tu, peu
trembles,
là.
Tu trembles, t'es en mode, est-ce qu'il y aura une place à la table de mes amis? Tu sens le vécu ou pas du tout là?
Oui,
tu sens le...
Mais parce qu'eux ils ont fini une demi-heure plus tôt.
Ils m'ont pas attendu pendant que j'avais le latin, ces connards.
Latin?
Mais moi j'ai fait le latin,
oh, wow.
Je faisais partie des nerds.
Et pas des noobs.
Je te mélange les deux. Mais du coup, ouais, non, la cantine, un enfer.
Ah,
et du coup, ça crée déjà ces groupes où tu sens les groupes. Les groupes du collège, ça, c'est un enfer. Et après, tu te barres au lycée et t'arrives une chance sur deux dans un lycée où tu connais personne, ou une chance sur un dans un lycée où tu connais tout le monde.
Rien de vrai, ça. Ça. Mais quelque part, t'as raison, Pauline. Donc ouais, une chance sur deux, 2 chances sur 3.
7 chances sur 6, t'arrives dans un truc, tu connais personne.
Ouais.
Donc c'est reparti, qui suis-je, où vais-je, quelle image j'ai, avec qui je traîne.
Qui a l'air sympa, avec qui je peux aller. Oh.
Et les influences, là même, c'est reparti pour la cantine, le machin, si t'es tout seul, t'as pas de potes, et tu fais quoi, et blablabli, blablabla. Et je suis désolée, c'est jusqu'à la fin de ton lycée, le côté, le regard des autres, le jugement, le il faut se mettre dans des cases. Tu t'en fous de savoir si t'es bien heureux, pas heureux, si tu fais ce que tu veux. C'est, tu dois être le plus discret et le plus fiable possible à ce que tout le monde attend de toi pour justement pas subir ce regard, ce jugement général.
C'est vrai ce que tu dis. Enfin, non, je rigole.
Comment on va le monter ?
Non, mais c'est vrai. Et je trouve que après t'as une nouvelle crainte qui arrive et on en parle vachement avec encore une fois toute ma bande de potes, non, même nous deux on en avait déjà parlé pas mal. Déjà t'as toute cette peur de l'exclusion et puis t'en as une autre qui arrive après qui est le FOMO. Je sais pas si t'as déjà entendu parler de ce terme là, peut-être tu peux nous donner une petite def.
Petite FOMO, fear of missing out.
Oh wow, chez Esprèche.
Yes. La peur de manquer, c'est un truc qui est né, moi, je l'ai eu beaucoup post-bac, parce que tu vois, tout le monde part un peu dans ses études, dans ses écoles, et tu te retrouves un peu livré à toi-même, surtout quand tu sais pas directement ce que tu veux faire, parce que je pense qu'ici, tout le monde est au courant, tout le monde fait une année post-bac, un peu bateau, à la fac, un truc sympa, parce que ce ne serait pas drôle, et tu commences à avoir les soirées, t'es majeur, les boîtes, les trucs, les machins, et là, t'as le traumatisme post-collège-lycée de « il faut appartenir à un groupe ».
Ouais.
Il faut appartenir à ce
putain
de groupe.
Mais c'est terrible parce que tout découle quand même de ce truc-là. Mais dès que t'es tout petit, c'est déjà « il me faut des potes ». Après, c'est « il me faut un groupe de potes ». Après, il faut que je sorte, que je me mette sur le même créneau que tous ces gens-là. C'est horrible.
Ah, c'est ça. Enfin,
c'est horrible, ça va. Mais genre,
c'est un peu horrible parce que ça peut créer des problèmes pour beaucoup de personnes. Parce que du coup, dans ce truc de la FOMO où tu te forces limite à beaucoup de moments à aller en boîte, à aller partout, etc., moi, je sais que c'était surtout avant Covid, justement. toutes les soirées, les week-ends, les machins. Tu sais même pas pourquoi tu fais les choses, mais tu le fais. Et c'est un moment vraiment délicat parce que tu commences à être dans ta vie de jeune adulte, au final, entre 18 et 20 ans. Et t'es là et en fait, t'es toujours pas toi-même. Donc tu subis encore une fois des espèces d'injonctions où il faut sortir régulièrement, il faut être en boîte, il faut boire beaucoup.
Et puis après, c'est les mêmes schémas à chaque fois parce que tu mets en place cette espèce de mécanisme en continu. Quand t'arrives à partir du jeudi soir que t'es étudiant, c'est toujours la même chose. Le before, tu sais ce que tu vas boire. Ensuite, tu vas décaler dans tel bar, tu sais comment ça se passe. Et après, tu vas décaler en boîte. Enfin, genre, les schémas sont toujours les mêmes. Les soirées sont toujours identiques. Ça se finit pareil. Tu t'emmerdes quand même. Enfin, je sais qu'on... enfin, je sais forcément parce que c'était nous deux, on en a parlé ensemble. Plein de fois, on s'est dit, putain, on en a fait des soirées où c'est toujours la même chose et tu te fais chier et après t'étais pas bien et t'as la gueule de bois. Tu dis, bon, la soirée était
pas si folle que ça. Ouais.
Et pourtant, combien de soirées on en a fait comme ça ? Enfin, je les compte même plus entre le bac et effectivement petite année sabbatique à la fac de psycho. Parce qu'effectivement, on est passé par la case fac. Qu'on n'a pas fait. Et bah là, c'était mais toutes les semaines, 3 à 4 fois par semaine, et toujours les mêmes soirées. Mais j'allais y aller en continu, parce que si jamais à une de ces soirées, il se passe un truc de malade, fallait être là.
Oui, et parce que si tu viens pas, mais c'est ça, si tu viens pas, t'es pas drôle, c'est un peu le même délire, tu sais, quand t'es plus jeune, je retourne au collège, ceux qui sont demi-pensionnaires ou externes.
Ah, waouh.
Tu sais, ce truc de si t'es demi-pensionnaire, t'es avec tout le monde, t'as des potes. T'étais externe ou non, moi j'étais demi-pensionnaire.
Moi aussi. Oh. Cool girl.
Permanence. 8h, 18h,
la vache.
Mais non, mais ouais, le truc où il faut tout le temps être avec les autres pour prouver que t'existes et pour prouver que t'es sympa. Au final, tu sais même pas pourquoi t'es avec ces gens-là. Parce que moi, pareil, à la fac ou autre, le nombre de soirées que tu fais avec des gens, tu sais même pas qui sont ces gens. Tu sais même pas comment ils sont arrivés sur ton chemin. Mais tu es là, tu te bourres la gueule du mercredi au dimanche avec eux. Et tu dis, mais qu'est-ce que je ferais d'autre? Et du coup, tu crées une espèce de personnalité où t'as peur d'être tout seul parce que plus tu te fuis, du coup, plus t'es en soirée, t'aimes pas trop t'es avec les gens, plus t'es en soirée, plus t'as peur d'être seul et de te retrouver face à toi-même. Et c'est un cercle vicieux super dur à casser.
Et puis, c'est horrible, tu te reposes jamais.
Ah, mais...
Parce que là, toutes les phases dont on a parlé de l'enfance jusqu'à là, l'année après bac et au final encore un peu, enfin maintenant un peu moins quand même, mais jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, c'est quand même du contrôle perpétuel, du stress en continu de « Ok, c'est mes potes, donc il faut que j'agisse comme ça, je sais que ça les fait marrer, je sais qu'eux ils aiment bien sortir là, je sais qu'ils sortent tant de fois par semaine à tel endroit, machin, c'est horrible. »
Ah mais c'est du contrôle, en fait c'est du contrôle, donc tu passes ta vie à gérer tes relations, alors que pour moi, je suis désolée, mais des relations saines, ça se gère pas. Ça se vit, c'est un truc, c'est fluide.
Justement, ça m'emmène à ma prochaine question. Vas-y. Comment tu as, toi, justement, vécu cette transition-là de je suis avec plein de potes, machin, on sort, on se met minable, etc., à maintenant où tu sens que t'as déjà une bonne base et des relations plus saines?
Alors déjà, donc il y a eu toute la partie post-bac, on va dire, ça a duré jusqu'au Covid, jusqu'au premier confinement, même deuxième confinement, je dirais. Vraiment ce truc de... Sortir. Ma personnalité, c'était sortir, boire, la fête, les boîtes de nuit, etc. Et toute ma bande de potes, c'était que ça. Et moi, j'ai toujours été quelqu'un de très anxieux. Beaucoup de crises d'angoisse, pas trop bien dans ses baskets. Et du coup, dès que je sortais, le lendemain, j'étais pas bien. Du coup, je ressortais et du coup, j'avais peur de louper. Tu sais, t'as des espèces de comportements un peu de dépendance affective. Donc, t'as besoin d'être avec les gens parce que tu te dis si je sors pas, les gens, ils seront plus là, etc., etc. Donc t'y vas, tu le fais. Et après, donc il y a eu le premier confinement, donc ça c'était une première étape où tu te rends compte que t'es tout seul. Mais tu vois, le premier confinement, il avait un peu un goût de on se ressource, on fait du sport, on range les cartons, les greniers, les garages, vacances, tu vois.
C'était sympa.
Après, la vie a repris, il y a eu donc déjà moins de bars, moins de tout, donc forcément. Et moi, j'ai eu une grosse remise en question, un peu à base de remise crise existentielle, tu vois, un petit peu, pour pas dire le mot dépression.
The D word.
The D word. Pendant tout le deuxième confinement, etc. To be continuous. Donc ouais, une grosse dépression sympa, où j'ai vraiment remis ma vie en question. Je me suis dit, mais putain, mais gros, tu vis pas ta vie. Tu vis la vie à travers les autres, à travers tes peurs, à travers j'ai peur de perdre mes potes, j'ai peur d'être toute seule, j'ai peur de qu'est-ce que je fais si je suis toute seule chez moi, je suis qui, je fais quoi. Et du coup, j'ai entamé un gros processus de apprendre à me connaître, apprendre à savoir ce que je voulais, ce que j'aimais. Et je me suis dit, mais en fait, j'aime pas tant que ça, la fête.
Pourquoi les... Je crois que l'alcool...
J'aime pas l'alcool, bah, ça finalement. Me met pas bien. Quand je suis bourrée, après le lendemain, je pleure parce que je suis en train de me dire qu'est-ce que j'ai fait, comment je me suis comportée. Forcément, tu passes par la case, t'as pécho quelqu'un, le lendemain, t'as envie de te buter la gueule, littéralement, si je veux dire le terme.
Si on peut le dire. On peut y aller, on peut aller là-dedans.
Parce que tu te contrôles pas forcément et t'es... Cette espèce de cercle vicieux d'alcool et tout. Donc ouais, donc moi, deuxième confinement où j'ai tout remis bien à plat, je me suis dit, en fait, c'est plus du tout pour moi. Donc forcément, t'as la phase où t'es en mode, bah, je vais être toute seule parce que tous les gens qui te correspondaient à ce moment-là, tu te dis, bah, ça y est, il n'y a plus rien qui nous lie. Ouais. Qui nous lie.
Qui nous lie aussi.
Il n'y a plus le lien.
Mais on peut dire ce qu'on veut. c'est ça, à l'époque.
Dis les termes. Non, il n'y a plus rien qui lie avec les autres et du coup, tu... T'as cette phase un peu compliquée de solitude et après tu te rends compte quand même que...
Bah c'est là que tu vois qui sont tes vrais potes entre ceux qui genre vont t'envoyer des messages de tu sors, au bout d'un moment comme tu vas pas arrêter de dire non, ils vont se dire bon bah c'est bon, on l'invite plus. Et puis les autres qui vont se dire bah tu veux prendre un caf?
Ouais c'est ça.
Viens on change de
méthode. Parce que toi
méthodes,
du coup
quoi,
c'est quoi ton rapport avec,
avec
tout ça, avec la FOMO?
Vous débrouillez
avec...
bien madame en question.
Salut, on retourne le feedback.
Moi ma transition, je sais pas du tout à... Enfin j'arrive pas à estimer à quel moment de ma vie ça s'est fait. Je pense que ça s'est fait un peu plus au fur et à mesure. Dans le sens où, comme ce que je te disais tout à l'heure, j'ai eu tellement de... Enfin, plein de groupes de potes différents d'un peu partout, etc. Qu'au bout d'un moment, j'ai commencé un peu à les virer, entre guillemets, un par un. D'une manière douce ou pas, pour certains.
Tu peux ghoster aussi, des fois.
Et là, ouais, ça fait peu de temps quand même que j'ai un nouveau groupe de potes, ça me gêne de le formuler comme ça, mais en vrai c'est une petite bande de gens
quelques
sympas
copains,
finalement,
quoi.
Voilà, quelques copains à la volée un peu sympas et je sens qu'il y a quand même un truc hyper sain justement qui est déjà créé où je leur fais confiance. Et quand tu parlais justement de toi, ta relation avec l'alcool et tout ça, je pense qu'on pourrait, aussi en faire un gros sujet.
Ah bah.
Parce que moi c'était pareil, à un moment donné je buvais que très très peu en soirée parce que j'associais la soirée à forcément il va se passer un truc terrible, parce que j'étais dans un groupe de potes où à chaque fois ça se terminait sur de la merde. Il se passait toujours un truc, etc. Et là ça fait très peu de temps où je retrouve un peu ce côté fun, parce que justement je sais que je suis avec des gens en qui j'ai tellement confiance que si jamais il m'arrive un truc, et je sais qu'en vrai il m'arrivera rien, enfin sauf exception, mais si un jour il m'arrive un truc, je sais que eux seront là pour moi. Et justement ça, bah c'est ça que j'associe à une amitié quand même relativement saine. Je me sens bien avec eux, je leur fais confiance et c'est méga sûr, quoi.
Ah bah ça, je trouve que c'est un truc dont on parle pas assez, c'est le fait de lâcher prise envers ses potes. C'est-à-dire que t'as ce truc où t'as des potes où ça demande justement un effort
ça
de les voir.
Ça demande du courage. Pokémon.
Ça demande un effort. Et hop, je retourne le carnet. Est-ce que ça a été vu? Pas du tout. Ça te demande un effort justement de voir certaines personnes parce qu'il y a ce truc de t'es pas légitime. Couper les relations, avoir des amis un moment, te rendre compte que tu changes, te rendre compte que tes valeurs changent, tes objectifs changent, ton quotidien.
Ouais.
Et en fait, tu te dis, ok, il y a des gens qui me correspondent plus. Comment tu fais? Est-ce que t'es là, tu te dis, bah, je coupe tout, je gosse tout le monde. Est-ce que t'essayes de réparer, de communiquer, de parler? Est-ce que tu... Comment tu fais? Genre toi, si t'es dans cette situation, tu te rends compte que tes potes te correspondent plus, tu fais quoi?
Bah, en vrai... je sais pas. Non, mais c'est différent avec... Enfin, ça dépend qui t'as en face de toi, quoi. Il y en a certains où... J'ai essayé, si tu veux, de mettre en place de la communication. Mais en vrai, quand tu vois que t'es face à quelqu'un qui ne prend vraiment pas la même direction que toi, et au final, tu te rends compte, à partir du moment où il y a un problème entre toi et cette personne, qu'effectivement, vous êtes pas pareil. Et en fait, la communication n'est pas possible parce que juste vous êtes liés d'amitié sur un truc qui était déjà faux. Donc forcément, à partir du moment où t'essayes de communiquer avec la personne, ça fonctionne pas. Donc c'est vrai que je suis quand même plus partisane de « viens, on parle, on pose des choses et tout ». Après... Je sais pas, il y a des gens qui m'ont quand même blessée, tu vois, donc un petit ghost de temps en temps. Bon, ça fait pas de mal, ça fait pas de mal. Mais toi.
mais toi. Bah moi en fait, il y a plusieurs scénarios, il y a genre par exemple, t'as ma meilleure pote d'enfance. On a eu une relation très très fusionnelle pendant très longtemps et il y a eu un moment on s'est retrouvés fin lycée totalement différentes sur plein de choses. Et il y a eu ce truc de coupure embrouille, c'est ce truc post-lycée en mode tu sais pas trop pourquoi mais tu t'embrouilles avec les gens.
Ouais.
On s'est pas parlé pendant 3 mois, le temps que chacune remette un peu sa vie en ordre. Et après on s'est retrouvés, on s'est plus jamais réembrouillés, juste notre... En fait il y a eu un réajustement de notre relation, genre vraiment on a parlé, on s'est dit ok ça faut faire différemment, ça maintenant la fusion, les relations fusionnelles et tout c'est ciao.
Ça, ça va être un gros sujet.
On veut un truc stable, on veut un truc où on se voit, où il n'y a pas de... rien, donc ça c'est cool. Après t'as des relations où il y a des gens qui décident de partir parce que ils sont malheureux et ils voient pas comment la relation peut évoluer différemment. Ouais. Parfois c'est horrible, mais c'est comme une relation de couple, ton ami va te rappeler des choses en toi ou va toujours déclencher un truc en toi qui fait que ça peut être de la jalousie, de la possessivité, plein de choses super négatives, et c'est pas rendre service à la relation ou à la personne en face que de rester dans cette relation là. Et après t'as d'autres situations. T'as des gens avec qui tu vas pouvoir être 100% transparente en te disant moi j'ai changé, je suis désolée, mais ce qu'on faisait il y a 3 ans, par exemple là, le fait de faire la fête H24, là je veux plus ça, moi si on se voit est-ce qu'on peut faire un petit resto, boire un petit verre de temps en temps ou boire un café, ils vont être ok parce qu'ils s'en foutent, ils veulent te voir toi, ils s'en foutent de ce que tu fais, où tu vas, ils veulent être là
et ils veulent du temps de qualité.
Ouais, du temps de qualité, parce que c'est ça qu'on veut en fait au final, c'est pas faire passer des moments et attendre que le temps passe.
De toute façon tu fais la comparaison entre les moments où t'es en soirée, alors attention, on dit pas qu'il faut jamais faire la fête ou quoi que ce soit.
Non, on est des grosses meufs de
teuf. On adore ça, on s'en met dans le nez. Là.
Nous, on est tous les soirs en train de twerker.
On ne dit pas ça. Bien sûr, faut faire la fête. En vrai, la fête, c'est très drôle. Mais forcément, les moments de discussion que tu vas avoir quand t'es en soirée n'ont rien à voir avec les moments de discussion que tu vas avoir quand t'es avec deux autres personnes, que tu vas boire un caf à 14h ou... ou je sais pas, où t'es pas justement sous une emprise complète de l'alcool, la musique, l'ambiance, etc. Enfin, ça n'a rien à voir. Et je pense que toi comme moi, on est justement beaucoup à la recherche de ces temps de qualité-là.
Ouais.
Et justement de vraiment être juste dans une communication qui est hyper humaine, quoi. Où j'apprends à te connaître, j'apprends à savoir quel humain tu es, quelles sont tes failles, etc. Enfin, je sais pas. Moi, je suis à la recherche, en tout cas, de ces temps de qualité-là, parce que je trouve ça beaucoup plus précieux que ces 4 heures où on va danser ensemble et le lendemain, je me souviens plus de ton prénom, quoi.
Et même, tu te rends compte, en fonction de ta personnalité, plus t'évolues, plus t'as des relations avec des gens où tu peux parler de tout, tu peux vraiment te mettre à nu sans réfléchir, te dire, je peux vraiment parler... Enfin, nous, par exemple, on parle beaucoup de psycho, de plein de choses. Si t'es face à des gens et tu sens que c'est pas réciproque, que c'est pas ouvert et que tu dois parler en surface tout le temps, ça va les cours, oui ça va la vie,
c'est
oui
chiant.
ça va ça.
C'est super.
Non, j'ai envie de parler de vraies choses, j'ai envie qu'on crée un vrai lien, j'ai envie que si je suis là face à toi, j'ai envie que ça me serve à quelque chose. On veut du temps de qualité avec les gens et c'est super dur parce que ça demande une remise en question, ça demande de l'honnêteté déjà envers soi.
Ouais.
Parce que de se dire, ok gros, t'es qui, t'as 23, 22, 21 ans, enfin peu importe l'âge qu'on a, et se dire, qu'est-ce que t'aimes faire de ta vie, ok maintenant, fais-le toi-même tout seul, et rends-toi compte à quel point ça te rend bien, et les gens qui fitteront avec cette énergie-là et ce move-là, ils seront capables de rentrer dans ton dynamisme, et ceux qui rentreront pas, ceux qui te feront, parce que la culpabilité amicale, on n'en parle pas assez, mais ceux qui te feront culpabiliser tout le temps de pas être autre chose que ce que tu es, ils auront pas leur place dans ta vie en fait, tout simplement.
C'est carrément vrai. Et je pense que tu as donné pas mal d'indices sur le prochain sujet qu'on va aborder. Pareil, il y a plein de choses à raconter dessus, des petites expériences personnelles à raconter chacune de notre côté. ça va être très sympa. Et est-ce qu'on conclut ce premier épisode, genre,
Est-ce qu'on est à la fin, là? On a tout dit?
J'ai l'impression. On a l'impression qu'on a abordé plein de choses. C'était peut-être fouillis ou peut-être pas. Ouais. Peut-être que c'était hyper organisé. Et qu'on était très chaud dès le début, genre.
Et qu'on s'en rend pas compte.
Ouais, peut-être. Peut-être bien. On espère que ça vous a plu, en tout cas. C'est le premier, mais pas le dernier.
Il y a plein d'autres sujets sur lesquels on veut blablater.
Exactement. faites-nous vos retours pour ceux qui nous ont écoutés. Waouh, petite pression d'un seul coup, là.
Allez
nous follow
sur Insta.
Dites-nous si ça vous a plu. Ouais, allez nous follow sur Insta, tard l'époque. Et quoi d'autre,
on espère que ça vous a plu, que si vous aviez des petites questions ou des petits problèmes dans vos vies amicales, vous puissiez vous dire après ce podcast que tout le monde passe par des moments super galères, que l'amitié c'est pas facile, c'est comme les relations de toute façon, et ça va être un peu notre move dans ce podcast, et c'est un peu pour ça qu'on l'a créé, c'est que c'est pas facile de trouver des gens avec qui parler de tout, et nous notre but c'est de pouvoir parler de tout avec vous et entre nous.
Waouh, c'est super bien dit.
Waouh.
Gros bisous, Pauline.
Salut, BG.
Ciao, ciao.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.